Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de l'événement Manager Demain. J'espère que vous êtes en grande forme pour accueillir notre invitée de ce jour. J'ai nommé Nadia Marouani. Alors, vous allez voir, Nadia, c'est une femme solaire, une femme brillantissime qui fait du mentorat pour les dirigeants et dirigeantes d'entreprise. C'est une grande experte des soft skills qui fait beaucoup de conférences dans ce domaine-là, qui a d'ailleurs un podcast que je vous invite à aller écouter ou regarder, même puisqu'il est aussi sur YouTube. J'ai eu le plaisir d'être interviewé par elle sur ce podcast qui s'appelle Skills, qui est une merveille absolue. Donc, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir notre invitée, Nadia Marouani. Bonjour Nadia et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Clément, écoute, je suis ravie d'être là avec toi et ta communauté et merci aussi pour ta belle introduction.
Ouf. Et je pense qu'elle est encore très, très en dessous de la réalité par rapport à tout ce que tu fais, parce que vraiment, je dirais que tu es une femme exceptionnelle avec un parcours incroyable. Je pense que nos auditeurs vont avoir l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Ben d'ailleurs, tu sais quoi? Directement, avant que l'on rentre dans notre vif du sujet, est-ce que tu serais OK de nous en dire un peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené justement à faire tout cela?
Alors, j'ai pas toujours fait de l'accompagnement, du mentoring, puisque je viens pas d'ailleurs du monde du développement personnel. J'ai commencé ma carrière en finance de marché,
Ouais.
monde, j'ai envie de dire, d'ultra compétition, d'ultra compétence. Et ça m'allait très bien parce que je suis plutôt à l'aise avec la compétition. Après, ça manquait déjà. À l'époque, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de mettre du sens dans ce qu'on fait, mais moi, à l'époque, ce n'était pas quelque chose qui était assez courant. Et ça manquait de sens. Donc, j'ai décidé de me reconvertir. Je suis allée dans le luxe, le groupe LVMH. Je suis même retournée sur les bancs de l'école pour faire d'autres formations. J'adore apprendre et je pense que je n'arrêterai jamais d'apprendre. Si je peux continuer à faire ça toute ma vie, je continuerai à le faire. Maintenant, il faut trouver le temps. Mais je m'arrange pour ça. Et puis ça a été une évidence. Ça a été quelque chose d'assez naturel parce que j'ai toujours bien aimé voir la lumière chez les autres. Que ce soit pas dans le travail, même de façon amicale. J'aime voir les autres briller. J'aime me voir aussi briller. Hein. J'aime les deux, mais j'aime me dire, voilà, il y a du potentiel chez les autres, il y a du potentiel à tel endroit. Et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire et ça s'est fait assez naturellement. Donc, j'ai commencé par faire du consulting auprès d'entreprises qui étaient plutôt dans les industries créatives. Et après, je me suis formée en neurosciences. C'est là où je t'ai rencontré d'ailleurs, Clément, il y a quelques années maintenant. Oui, c'est ça. Et ça a été une expérience fabuleuse parce que j'ai appris des choses qu'on n'a pas appris à l'école. Tu vois, quand on parle de soft skills, on parle aussi de comment comprendre comment le cerveau fonctionne, comment les émotions fonctionnent. Et il y a un côté qui, je trouve, est rassurant quand on le comprend. C'est un côté pas abstrait. Il y a une certaine logique. Et cette logique-là, je la trouve très rassurante et je le vois aujourd'hui dans mes accompagnements auprès d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprise, parce qu'on peut croire qu'ils maîtrisent tout, mais oui, ils maîtrisent, ils sont très compétents, mais ils ont aussi beaucoup de doutes, beaucoup de solitude, beaucoup de remises en question et beaucoup de challenges. Et je trouve que voilà, leur expliquer des choses de façon très rationnelle, il y a une anxiété qui baisse, une angoisse qui baisse et qui leur permet d'apprendre et de désapprendre certaines choses. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans l'interview. Et ce qui m'a donné envie ensuite, donc j'ai créé mon podcast que tu as nommé au tout début Skills, c'est que j'avais envie de documenter justement toutes ces compétences comportementales qui ont été pendant très longtemps considérées comme tu sais, les compétences douces, les compétences accessoires, sauf que pour rappel, on recrutait les gens pour leurs hard skills et on s'en séparait à cause de leurs soft skills. Donc, j'avais envie de le documenter. Je me disais, est-ce que je le fais en écrivant un livre? Est-ce que je le fais en face caméra? Ou est-ce que tout simplement, j'inviterai pas des personnes qui ont très bien réussi dans leur parcours professionnel, en tout cas qui étaient reconnues par beaucoup de gens et j'avais envie de leur poser cette question. Comment tu arrives à réussir? Comment tu arrives à atteindre tel objectif sans te perdre et sans t'épuiser? Alors, je reçois hommes et femmes. Après, j'ai une sensibilité pour les femmes, puisque je suis très investie sur ces sujets-là. Je fais partie d'un prix littéraire qui s'appelle Gisèle Halimi, qui célèbre le combat et la liberté des femmes. Je fais partie aussi de clubs de femmes. Donc, c'est un sujet auquel je suis assez sensible. Voilà pour mon parcours.
J'adore. Et en fait, et d'ailleurs, avant de parler d'ambition, hein, puisque tu accompagnes des personnes, on peut dire, qui ont beaucoup de confiance, ou peut-être pas, ou à voir, en tout cas d'ambition, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours. J'aimerais te demander, qu'est-ce que tu as pu observer chez toi, mais aussi peut-être chez les personnes ou les femmes que tu accompagnes, puisque tu accompagnes beaucoup de femmes, notamment qui ont des grands niveaux de réussite. Donc, ça peut être des entrepreneurs, des dirigeantes ou femmes qui ont des très hauts niveaux de responsabilité. Et donc, qu'est-ce que tu as pu observer chez toi ou chez ces femmes qui t'ont donné envie de travailler particulièrement sur ces sujets?
Écoute, super question. D'ailleurs, ça me fait repenser, tu vois, à certaines choses auxquelles je ne pense plus. Mon ambition, elle est simple à nommer. Moi, j'ai envie de réussir. J'en ai besoin. Et ça, je l'assume complètement. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus personnel derrière. C'est que depuis toujours, j'ai ressenti une forme d'injustice au point de départ. On conditionne les femmes à être douces, bienveillantes, pas faire de bruit. Et moi, je suis douce, je suis bienveillante, mais je veux réussir quand même. Sauf qu'on m'a fait comprendre pendant longtemps qu'il fallait choisir entre les deux.
D'accord.
Et j'ai refusé. Enfin, on m'a fait comprendre, c'est pas une personne en particulier, mais c'est la société, c'est l'héritage, c'est beaucoup de choses. Et j'ai eu ce sentiment-là et j'ai refusé ce choix. Donc, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai d'abord commencé ma carrière en finance de marché. Mmh. Comme tu disais, tu vois, je suis très à l'aise avec la compétition, c'est pas le souci. Mais j'ai jamais voulu m'y fondre devant un homme, en devenant un homme, tu vois. C'est-à-dire que je vais m'inspirer de choses extraordinaires chez eux, qui est leur rapport à l'action, leur façon d'oser, sans se demander 10 fois s'ils ont le droit de le faire. Mais j'ai gardé ma sensibilité. Et je suis OK avec ça. Donc, tu vois, la question, elle est plus dans comment... La question que je me suis dit, c'est comment je peux être dans l'action. Et derrière, tu le sais bien, dans l'action, il y a la confiance. Parce que qu'est-ce qui me fait passer à l'action? C'est la confiance en soi. C'est que je ne suis pas sûre du résultat, mais je vais faire de mon mieux et j'y vais quand même. Ça coche pas toutes les cases, mais j'y vais quand même. Donc, il y avait quelque chose d'assez personnel. Et tu vois, aujourd'hui, en 2026, on attend d'une femme, tout à l'heure, tu vois, je te disais, on attend d'une femme à ce qu'elle soit douce, bienveillante, etc., qu'elle s'occupe de l'intérieur. Mais aujourd'hui, on attend ça d'elle, mais on attend aussi qu'elle réussisse au travail. On attend qu'elle soit une bonne mère pour ceux qui ont des enfants et qu'elle soit présente partout. En tout cas, c'est vraiment les sujets de discussion qui reviennent assez souvent sur la table avec mes clientes. Et donc, il y a une place quand même qui est complètement nouvelle à inventer. Et cette place-là, elle demande des habitudes différentes. Donc, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Et ça, personne ne nous l'enseigne. Alors moi, ce que je cherche, en tout cas pour moi et pour mes clientes, c'est de performer, de réussir, mais arriver à garder un équilibre qui me laisse en accord avec moi-même, sans me dire je dois changer, je dois devenir comme un homme. Parce que on entend souvent, moi j'avais entendu il n'y a pas très longtemps, d'une personne que j'ai interviewée, qui est une entrepreneuse extraordinaire, et on me dit, mais en fait, elle, c'est un homme. Et ça, je suis pas trop d'accord avec ça. Pour moi, les femmes, elles ont en tout cas la compétence. Ça, c'est jamais un problème. Et pour celles qui n'y arrivent pas encore, qui ne sont pas complètement alignées avec leur ambition, c'est la permission. on attend d'elles, elles attendent à ce qu'on les autorise à prendre leur place. Et en réalité, cette autorisation, elle ne vient jamais de l'extérieur.
Ah ben, tu vois, c'est intéressant parce que j'allais te demander, est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu retrouves des schémas récurrents chez des femmes comme ça qui sont très compétentes, mais qui n'osent pas encore pleinement prendre leur place?
Le schéma, c'est ça. C'est ce que je te disais juste avant, c'est cette autorisation. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont tout à fait capables de te dire « je suis très compétente ». je maîtrise très bien que ce soit mon entreprise ou mon projet ou mes équipes, mais elles n'osent pas y aller. Elles n'osent pas y aller parce qu'elles ne se sentent pas totalement légitimes. Tu vois, elles attendent qu'on vienne les choisir, qu'on vienne leur dire « Tiens, je te propose ça parce que j'ai vu que tu étais très loyale, que tu étais très compétente, donc on va te proposer ce poste-là ou ce projet-là ou cette association. » Et le problème, il est là. C'est vraiment la permission.
Alors justement, puisque le titre de notre interview, c'est « Les femmes, l'ambition, la confiance », comment oser s'autoriser, comment oser se donner la permission quand on ne se sent jamais prête? Et pourquoi, selon toi, en plus, beaucoup de femmes attendent justement de se sentir totalement légitimes et d'avoir cette permission avant d'oser franchir le cap?
Intéressant. Tu sais, il y a une étude qui a été faite, je ne saurais plus te rappeler le nom, mais qui dit que les hommes, avant de passer à l'action, ils n'attendent pas de cocher toutes les cases. S'ils en cochent 60, ils y vont. Et les femmes, elles ont besoin de cocher 100% des cases. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, tu sais, quand il y avait la formation en neurosciences, c'était une cohorte de 60 personnes. Et d'ailleurs, toi, tu disais qu'il faut commencer à accompagner tout de suite.
Oui.
Beaucoup de jeunes femmes disaient « Mais non, mais je n'ai pas encore mon diplôme, je ne suis pas légitime à le faire. » Donc, elles ont toujours besoin, on a toujours besoin, tu vois, de cocher toutes les cases avant d'y aller. Et je pense qu'on confond entre être prête et se sentir prête. Et personne ne se sent jamais totalement prêt. Personne.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment-là? C'est ça qui est intéressant.
Tout à fait. C'est vrai que s'il faut attendre de se sentir prêt, en effet, ça va être un vrai facteur bloquant. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que beaucoup de femmes vont voir se heurter leur ambition personnelle aussi à des attentes sociales. Alors, ça peut être familial, ça peut être en effet des croyances sociétales, éducatives. Alors, comment la culpabilité par rapport à cette pression sociale peut devenir un frein à la confiance et au passage à l'action?
La culpabilité, pour moi, c'est le frein numéro un.
D'accord.
Et je vais te raconter quelque chose. La semaine dernière, justement, je donnais une conférence dans un club de femmes dont le titre était « Perform or die ». Donc, tu performes ou tu meurs. Et le danger, justement, c'est de croire, tu vois, qu'il y a le « ou ». Tu vois, c'est soit tu performes, soit tu n'y arrives pas. Ouais. Et en préparant, tu vois, en préparant cette conférence, je pose une question à une amie et je lui demande qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Mmh. Elle me dit, c'est pas un problème pour moi, j'ai un cerveau masculin.
D'accord.
Je suis très ambitieuse et ça me pose aucun souci. Du coup, moi, je creuse parce que je refuse de croire qu'elle est en train de me dire que les femmes seraient moins ambitieuses. Mmh. Et là, elle précise sa pensée et elle me dit qu'elle a aucun problème de culpabilité. Et tu vois, c'est exactement ça. Le sujet, c'est que c'est pas le cerveau, c'est pas de la biologie, c'est la culpabilité. Et la culpabilité, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est un héritage qui est social, qui est culturel. Donc, on a appris à beaucoup de femmes, à certaines en tout cas, beaucoup plus qu'à d'autres, à culpabiliser dès qu'elles prennent de la place, du temps ou de l'air. Tu vois, il y avait eu aussi une autre étude assez extraordinaire d'une femme qui travaillait aux côtés de Steve Jobs, reconnue à la Silicon Valley, vraiment une très très grande femme d'affaires. Et Stanford en a fait une étude lors de son MBA et ils ont fait deux classes. Ils ont imprimé son parcours ainsi que son CV. À une classe, ils ont laissé le nom féminin tel qu'il était. Et à l'autre classe, ils ont mis un prénom masculin. Mmh. Et ils leur ont demandé ce qu'ils pensaient de ce parcours et de cette personne. Donc, ceux qui avaient le prénom masculin, donc c'est même CV, même parcours, hein, ils ont dit que c'était quelqu'un de ultra compétent, qui savait exactement ce qu'il voulait et que c'était un bel exemple à suivre. Et ceux qui ont eu le prénom féminin, ils étaient tout à fait d'accord. Ils ont dit que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. En revanche, ils ont trouvé qu'elle était assez agressive voire peut-être insupportable en tant que manager.
D'accord.
Voilà, perception. Il y a, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des biais. Tu vois, on a des croyances qu'on hérite, tu vois, socialement et culturellement. Et pourquoi oui. je te raconte ça, c'est qu'il y a aussi une réalité qui est qu'une femme qui prend de la place, une femme qui est ambitieuse et qui l'assume, est perçue, tu vois, sans qu'il y ait des biais, de toute façon, comme quelqu'un, peut-être perçue comme quelqu'un d'agressif.
Tu vois ? Hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est bluffant, c'est le même CV, c'est le même parcours. Et donc, derrière, on se fait des fausses idées concernant le fait qu'une femme puisse arriver à avoir un tel parcours. Si elle y est arrivée, c'est parce qu'en effet, elle a les dents qui rayent le parquet, elle est agressive.
Exactement. Et c'est exactement ça. Et j'aime bien, tu vois, mettre cette nuance parce que, tu vois, on contrôle ce qu'on peut contrôler et puis après, il y a une réalité. On va dire oui. qu'il y a une part de responsabilité, évidemment, de la part des femmes qui est de pas assez oser, mais parce que aussi on ne leur a pas appris à l'être. Mmh. Il y a aussi une réalité qui est une perception du leadership. Quand une femme prend de la place, qu'elle est très ambitieuse, on va percevoir son leadership baisser de quelques pourcentages par rapport à un homme où on va dire « Ah, lui, il a du caractère, il sait ce qu'il veut, etc. »
D'accord. Donc oui, on voit bien que cette pression est ultra importante. Alors, tu nous as expliqué le magnifique travail que tu réalises autour de ces fameuses compétences douces, hein, les soft skills. Et vraiment, j'insiste, allez écouter le podcast de Nadia. C'est vraiment une mine d'or. Vous verrez de nombreuses personnes au parcours exceptionnel, pour beaucoup d'ailleurs qui sont très célèbres. Hein, c'est-à-dire que c'est bluffant de voir les personnes que tu arrives à avoir à ton micro. Donc, pour en revenir justement à ces fameux soft skills, tu nous montres bien que la réussite, ce n'est pas seulement des compétences techniques, les hard skills, il y a aussi les fameuses soft skills. D'ailleurs, je crois que aujourd'hui, les RH hein, disent enfin que c'est pour 80%, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais 80% en effet des compétences en tout cas, qu'ils recherchent dans les recrutements deviennent maintenant des soft skills. Donc tant mieux, on y vient. Donc, il y a notre posture, il y a notre savoir-être, notre capacité à décider, poser des limites, prendre sa place, tout ça, ça rentre dans ces fameuses compétences douces. Mais justement, c'est quoi pour toi les compétences intérieures les plus importantes qu'une femme doit développer pour soutenir son ambition sans s'épuiser et sans se renier ?
Merci beaucoup hein, pour cette question, parce que tu as raison, c'est le cœur des sujets que j'aborde. Et ce que tu dis, je te rejoins totalement quand tu dis les DRH disent que les compétences comportementales représentent aujourd'hui 80% en tout cas dans la décision de recruter quelqu'un avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai parce que aujourd'hui, ce que fait l'IA, c'est automatiser des tâches. Donc, on devient compétent beaucoup plus rapidement. Et qu'est-ce qui reste ? C'est justement savoir gérer un conflit, d'être quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime avoir à ses côtés, d'avoir un bon caractère, d'avoir un bon mindset, de savoir prendre une décision. C'est toutes ces compétences qu'on nous a pas appris, qu'on nous a pas appris à l'école.
Oui.
Et qui deviennent aujourd'hui, tu vois, c'est des compétences aujourd'hui qui sont stratégiques. Et pour répondre à ta question, en tout cas, s'il y a une compétence, tu vois, qui permet de soutenir son ambition, la première, je dirais, c'est l'assertivité.
Mmh.
L'assertivité, pour ceux qui connaissent, vous savez ce que c'est, mais ceux qui ne connaissent pas, l'assertivité, c'est l'affirmation de soi, c'est dire ce qu'on pense, c'est dire ce en quoi on croit, sans blesser l'autre, donc tout en respectant l'autre personne. Et c'est donc savoir poser ses limites, c'est savoir dire non, sans agresser et sans s'effacer. Et tu vois, quand tu parles de renier, se renier, ça ne se fait jamais d'un coup. C'est jamais ouais. un grand moment dramatique. Ça se fait par des petits oui, tu vois, qu'on n'avait pas envie de dire. C'est le rendez-vous qu'on accepte alors qu'on avait envie de refuser. C'est vraiment la limite qu'on ne pose pas. C'est aussi d'éviter les conflits, le désaccord qu'on va taire parce qu'on ne veut pas déranger. Et tu vois, mis bout à bout, c'est ça qui épuise et qui éloigne de soi. Et cette assertivité, tu vois, on pense que c'est soit, elle est situationnelle, hein, c'est soit on va rien dire du tout Et quand on dit rien, bah, c'est mal vu parce qu'on est vu comme quelqu'un de pas productif, quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs, etc. Soit, ça va être l'inverse, on va être très affirmé, limite agressif, et ça, ça devient des comportements toxiques. Tu vois, les deux sont dans le 3. Et le bon endroit, tu vois, c'est comme, tu sais, pour ceux qui jouent au tennis, tu vois, la raquette, bah, tu entends un bruit génialissime quand ça tape bien au milieu. C'est la même chose avec la certitude, c'est une question de calibrage. Et ce qui est, tu vois, c'est une bonne nouvelle parce que c'est quelque chose, tu vois, qui s'apprend. Donc on peut tout, et puis on peut tout à fait aussi, quand on parle de calibrage, donc on n'est pas obligé d'être l'un ou l'autre. Donc on peut rester soi, on peut rester, tu vois, doux, on peut rester quelqu'un de sensible, on peut rester quelqu'un de bienveillant et être parfaitement assertif. Et les deux ne s'opposent pas. Donc c'est oui. Même, j'ai même envie de dire, c'est exactement là qu'est la vraie force. Donc j'ai envie de te dire ça, première compétence c'est l'assertivité, et la deuxième, je pense que tu le sais, je fais toujours, tu vois, j'aime bien faire des comparaisons avec le sport, parce oui. que j'en fais pas mal, et j'ai interviewé aussi pas mal de sportifs, je regarde aussi, je regarde beaucoup le tennis parce que je trouve ça très inspirant. Tu vois, le joueur est assez seul quand même sur le terrain. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'avait même pas le droit de parler à son coach. Et tu vois, quand on parle de sans s'épuiser, sans se renier, bah, je penserai à l'assertivité. Et sans s'épuiser, je penserai au temps de récupération. Tu vois, si tu demandes à des athlètes de haut niveau, tu leur demandes est-ce que tu performes 365 jours par an, je peux t'assurer qu'ils vont te dire jamais de la vie. Donc, ils vont alterner effort et récupération.
Oui.
Et ceux, tu vois, et les amateurs, ils vont penser, quand je parle d'amateurs sportifs, ils vont, et donc aussi les amateurs dans la vie professionnelle, ils vont penser que prendre du temps pour soi, c'est une faiblesse. Et la performance, à quoi on associe la performance? On associe la durabilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu construis sur 10, 20, 30 ans? C'est pas ce que tu construis sur un an ou deux. Tu vois, oui. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, la récupération, c'est pas le contraire de la performance, ça en est la condition sine qua non. Tu vois, donc une ambition qui dure, c'est une ambition qui se recharge, pas d'aller puiser dans ses réserves. Tu vois, c'est ce qu'on appelle de l'extraction, mais plutôt comment je remplis ma performance pour qu'elle dure dans le temps. Donc, si j'en ai deux à citer pour reformuler, c'est l'assertivité et la récupération.
Ah, j'adore. Et en fait, dis-moi ce que tu en penses, l'assertivité, finalement, c'est la forme la plus aboutie du respect. Je te respecte, mais je me respecte aussi.
Exactement. Je te respecte et je me respecte. Tout à fait.
On rentre sur des vraies qualités relationnelles. C'est-à-dire une personne qui a su s'équilibrer, qui sait équilibrer sa relation avec les autres.
Oui, et puis c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. C'est pour ça qu'on parle de compétences. C'est quelque chose qui s'apprend naturellement. Et ça, je pense que c'est bon. Ça fait du bien de le savoir. C'est qu'on est naturellement soit... pas du tout assertif, soit trop affirmé agressif, soit on est dans la manipulation pour atteindre nos objectifs. Et l'assertivité, bah, c'est quelque chose qui s'apprend, que l'être humain a la capacité d'apprendre ou de désapprendre aussi. Tu vois, quand on est trop agressif ou on évite trop les conflits, bah, on apprend à se déshabituer de ça pour développer cette nouvelle compétence.
Tout à fait. Alors, quand on est dans ce parcours où on se dit, bah, tiens, j'aimerais à un moment réaliser mes rêves, voilà, il y a quelque chose qui m'attire et j'hésite encore, je résiste. Il y a parfois un point de bascule, un moment où le rêve devient plus fort que la peur. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît ce moment, notamment pour les femmes, où on passe de « je ne suis pas prête » à « j'y vais quand même » ?
Ah, intéressant. Tu vois, imagine t'as un mur blanc devant toi,
ouais.
Et t'as envie qu'il devienne bleu. Ok. Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il devienne bleu? Quelle est la première chose que tu dois faire pour que ce mur devienne bleu? Là, spontanément, tu me dirais quoi?
Aller acheter de la peinture.
Exactement. C'est de se lever de sa chaise et aller acheter de la peinture bleue et un pinceau. Tu vois, ce moment de bascule, c'est jamais une grande révélation. C'est pas un jour d'un coup, tiens, la peur, elle disparaît. Ça se passe jamais comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un sentiment qui tombe du ciel. C'est que il faut être dans l'action. C'est que tu te lèves et tu as pris la décision que ce mur, il allait plus être blanc, il va devenir bleu. Donc c'est une décision. Donc c'est ce moment-là, tu as choisi d'y aller. C'est simple, tu vois, je te dis mur blanc, mur bleu. Là, l'idée, c'est de dire, bah, tu choisis d'y aller même quand tu as peur. La peur, elle ne va pas partir, tu avances avec. La perfection de commencer quand tout est parfait, ça veut dire, ah, lorsque j'aurai plus peur, lorsque ceci, ceci, ce, cela arrivera, j'y vais. Non, c'est de comprendre que tu construis petit pas par petit pas. C'est un processus. Tu vois, cette décision, ce point de bascule, c'est la décision de le commencer. Et donc, chaque petite action, tu vois, qu'on ose, bah, elle va recâbler quelque chose à l'intérieur. Et elle va rendre la suivante un peu moins effrayante. Et là, on reparle encore de, tu vois, de neurosciences. C'est que, tu vois, une décision que tu répètes, répètes, répètes plusieurs fois, bah, ça devient un réflexe. Dans un sens comme dans un autre. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc, si tu décides déjà d'aller faire la première petite action, tu es en train de muscler ton cerveau pour que ça devienne un réflexe. Donc, avant, la peur pouvait durer plusieurs mois. Après, c'est quelques jours. Et après, c'est même parfois quelques minutes. Accepter en tout cas que la peur, elle est là, mais que j'avance avec et que ça n'existe pas. Si je fais encore la comparaison, tu vois, avec le sport et le tennis, enfin, pour qu'il fasse beau, quand tu joues la bonne température, c'est-à-dire à 23 degrés, qu'il n'y ait pas de vent, que tu es mal nulle part, si tu demandes à des sportifs, ben, je pense que la plupart vont te dire c'est très, 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 très rare.
Bien sûr.
Pas vraiment beaucoup au tout petit pas. Au grand saut héroïque. On pourra le voir, tu vois, quand tu auras un peu de recul sur ta carrière. Et on le devient, je trouve, une décision à la fois. D'ailleurs, tu sais, avant une prise de parole, moi, j'avais bien aimé, j'avais vu un talk de Amy Cuddy. Je ne sais pas si tu connais. Tu vois,
Oui.
c'est le pouvoir de la posture. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle dit que on peut décider, on peut avoir la bonne croyance positive pour changer notre posture. Mais l'inverse fonctionne aussi très bien. C'est-à-dire que si intérieurement, tu as peur ou tu te dis, je ne me sens pas capable de prendre la parole ou d'aller parler à cette personne parce que je la considère beaucoup trop importante, etc. Si tu te conditionnes physiquement à y aller, donc c'est-à-dire, tu sais, d'avoir le dos bien relevé, d'avoir une posture d'ouverture, bah, y a un effet sur ton mental. Et donc, c'est pareil. C'est, tu passes à l'action alors que intérieurement, tu ne te sens pas prêt. Et le fait de l'avoir fait, bah, va conditionner ton mental.
Complètement. J'adore. C'est-à-dire qu'en fait, tu me dis si je dis des bêtises, mais il y a une notion de courage qui apparaît, puisque tu dis agir même lorsqu'on a peur. Donc c'est le courage. Et en fait, c'est le courage de choisir. Le courage de choisir d'agir. Et ce que j'adore, c'est en effet, tu vois, souvent on se dit qu'il faut être prêt mentalement avant d'agir. Et tu nous proposes aussi cette option d'agir pour être prêt mentalement.
Et ça, je trouve que c'est, moi en tout cas, ça m'a énormément servi. Tu vois, le fameux fake it until you make it.
Oui.
Avant, il y a quelques années maintenant, tu vois, j'osais, moi-même, tu vois, je n'osais, oh là là, j'arrive pas, attends, je te dis, j'osais pas dire oui avant d'être 100% prête. Et ça, je l'ai appris, tu vois, quand je te disais, parce que moi, je suis pas du tout dans une posture, tu vois, d'être contre les hommes, pas du tout. Je pense qu'on est simplement différents, mais je me suis inspirée de ça parce que j'ai beaucoup observé quand j'étais dans la finance et je me suis dit, ils ont un truc qui est extraordinaire, c'est que ils y vont alors qu'ils sont pas prêts, mais ils se disent entre le moment où je dis oui et le moment où je vais vraiment délivrer, bah, c'est à ce moment-là que je vais apprendre.
Complètement.
Tu vois, et ça, pour moi, ça a été un vrai game changer.
Tout à fait.
Pas pour l'anglicisme, mais pour te dire, ça m'a vraiment fait basculer, c'est que je suis capable de dire oui alors que je ne me sens pas 100% prête. Et je me dis, de toute façon, ce n'est pas grave, ce sera programmé dans 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, bah, j'aurai le temps de le développer. Et c'est comme ça que j'ai commencé en tant que conférencière. Tu sais bien en France quelle est notre mentalité, c'est qu'on se dit souvent, bah, on va venir bah, te faire appel à toi parce que tu as déjà un background de au moins 5 conférences derrière toi. Bah, en réalité, il faut bien commencer quelque part et je trouve que ce tips-là t'aide à commencer.
Complètement. Et d'ailleurs, j'en profite parce que tu disais au début que lorsque on était pendant la formation, je vous disais d'apprendre, de commencer les accompagnements, alors que vous n'aviez pas fini la formation. Parce que, et donc, on est là, hein, c'est fake it. D'ailleurs, en fait, pour ceux qui ne seraient pas trop anglophones, faites semblant, faites comme si jusqu'à ce que vous sachiez faire. Et on pourrait dire, dans les expressions françaises, on dit la même chose, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire
Exactement. Il n'y a aucune hypocrisie derrière. Tu vois, la semaine dernière, j'ai rencontré une femme formidable qui est CEO d'une super belle entreprise qui a passé pas mal d'années aux États-Unis, à New York.
que c'est.
Elle m'a dit, clairement, elle m'a dit, si j'en suis arrivée à là où je suis aujourd'hui, c'est la fameuse phrase fake it until you make it. Elle est très compétente. Ça veut dire, elle s'est arrivée, mais elle me dit, à ce niveau-là, cette phrase-là m'a énormément aidée et elle l'a appris aux États-Unis.
Bon, donc allez-y, fake it until you make it. OK? Allez, j'aimerais te poser une dernière question. Si justement une femme aujourd'hui nous écoute avec un projet, une ambition, un rêve qu'elle a envie de réaliser, qu'elle a pas, qu'elle n'ose pas encore pleinement assumer, ça serait quoi pour toi la première étape concrète que tu lui proposerais pour commencer à se faire confiance sans attendre d'être parfaitement prête?
Si elle remet quelque chose à demain, disant j'ai le temps, cette fameuse procrastination cache pas mal de peurs et d'excuses, choisis-la comme une décision, une seule chose, toute petite, cette semaine, pas un énorme plan, tu vois, choisis un pas vers ton projet ou un seul nom que tu n'osais pas dire et fais-le avant de te sentir prête. Pas après, avant. Parce que la confiance, tu vois, quand on parle d'ambition, ambition, il faut aussi de la confiance en soi. Cette confiance en soi, te permet de passer à l'action. Et elle ne viendra pas en restant immobile. Donc, si tu as peur de quelque chose, ou si tu mets des excuses, ou tu reportes quelque chose au lendemain, choisis la plus petite. Choisis pas quelque chose d'énorme, vraiment la plus petite. Et tu vas voir, tu vas te donner la preuve que cette action minuscule, tu vois, que tu as choisie, elle va te montrer à toi-même que tu es capable. Et que tu n'as pas besoin d'être prête à 100% pour commencer, que c'est en commençant que tu le deviens.
Je suis fan. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase que j'aimerais partager et vous partager, qu'un grand monsieur un jour m'a dit et qui s'est toujours avéré vrai. Si ça te fait peur, c'est que c'est le bon chemin. Si tu n'y vas pas, c'est que tu es en train de prendre le mauvais chemin. Et j'avoue qu'elle m'a beaucoup marqué cette phrase, parce que ça s'est toujours avéré vrai. Parce qu'on sait qu'a priori, il va y avoir un petit inconfort si on va quelque part, parce que c'est là que justement on va devoir progresser, croître, s'améliorer, et donc grandir à travers ce chemin. Et si on ne le prend pas, ben on reste dans le confort de rester là où on était. Et donc ce que tu dis me fait tellement penser à ça, et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. Donc merci pour ton partage.
Avec plaisir. Je la garde en tête aussi parce que je l'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai, je l'aime beaucoup. Parfois, je fais exprès, tu vois, de me dire, tiens, cette personne, tu la connais pas, c'est parce que tu la connais pas que tu vas aller lui parler. Ou tiens, tu as peur de ça, tu vas y aller parce que je sais que quand tu as peur, il y a quelque chose qui va être intéressant derrière. Et à force de le tester, j'ai les preuves que ce que tu dis, c'est la vérité. Et je la trouve magnifique, cette phrase. Donc, continuons comme ça.
Super. Donc, allez-y. Agissez. Si ça fait peur, c'est qu'a priori, c'est par là qu'il faut aller et qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Un grand merci, Nadia, pour
Merci,
tous ces
Clément.
partages. Alors,
Avec
justement, si on veut te contacter, si on veut te retrouver, tu nous préconises de te joindre où?
Je suis partout, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, donc Nadia Marwani, j'ai aussi un site web qui est www.nadiamarwani.com et il y a Skills qui est sur toutes les plateformes d'écoute, donc je pense que je suis assez visible pour être joignable.
Super. De toute façon, on mettra tous les liens juste en dessous de cette vidéo. Encore mille fois merci Nadia pour ton partage très inspirant. Continuez, faites semblant, faites comme si, jusqu'à ce que vous sachiez faire.
Merci Clément et à très bientôt, j'espère.
Merci à toi, à bientôt.
À bientôt.